Les sorties, on discutait. Il nous racontait son permis de conduire. Très drôle. Le discours de Laurent Tirard avec Benjamin Laverne. Adrien est coincé à un dîner de famille. Son père ressort la même anecdote que d'habitude. Sa mère resserre le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s'il était Einstein. Il attend que Sonia réponde à son SMS et mette fin à la pause qu'elle lui fait subir alors que son beau-frère lui propose de faire un discours de mariage. Laurent, c'est à l'origine un film, un livre de Fab Caro.
Oui, on n'a rien forcément a priori contre le boulevard et le théâtre de boulevard. On n'a rien contre Amélie Poulain ou les Deschiens quand ils sont mordants, ironiques. Mais le problème ici, c'est qu'il y a toutes ces influences-là, il y a toutes ces références-là, mais en même temps, tous, à part le héros, peut-être tous sont des crétins. Décérébrés, qui n'ont strictement aucun intérêt.
Que des manies.
Pardon ?
Ils ont que des manies.
Ils ont que, oui, exactement. Donc, ça, on ne peut pas s'y intéresser, même sous l'angle de la caricature, de l'humour, ce sont tellement des clichés inintéressants que ça en devient absolument répétitif. Et alors, on se dit, bon, ben, au moins, l'apothéose du film, ça sera le discours.
Oh là,
on attend. On attend. Eh ben, on a tort de l'attendre. Bref, c'est absolument poussif et sans aucun intérêt.
Benjamin Laverne, pourtant, c'est un grand acteur et en fait, on lui fait porter un sac bien trop lourd que personne d'autre, d'ailleurs, n'aurait pu porter.
Le livre de Fab Caro est très drôle.
Oui.
Moi, j'ai pas vu le film, mais
moi
le
aussi,
film,
moi, j'ai lu le livre. Oui.
Il est très drôle.
Nomadland de Chloé Zhao. Une usine ferme, ses habitants s'en vont et une ville disparaît de la carte américaine. Et ce film, pour raconter l'un de ses habitants, c'est Fern Frances McDormand, qui choisit, après une vie dans cette ville, la mort de son mari, de prendre la route à bord de son van. Elle choisit le nomadisme. Le film est adapté du livre d'une journaliste qui a suivi plusieurs seniors devenus précaires. Fern, comme eux et avec eux, entre job chez Amazon pour empaqueter les colis, d'ailleurs une vision complètement folle de ses entrepôts, ou serveuse, ou ramasseuse de betteraves, entre Nebraska, Nevada, Arizona, Californie. Une poignée de pionniers 2.0, sans gloire, déclassés, cassés, que Frances McDormand regarde, écoute, c'est elle notre guide. En fait, tout le film se voit dans ses yeux, moqueur, fatigué, empathique. Alors non, il n'y a pas de prise de risque narrative, j'ai pu le lire, pas de critique de fond du système, c'est vrai. Mais les images qui parlent d'elles-mêmes et cette idée, transformer cet état de fait, la crise, la déchéance sociale en une certaine forme d'ode à la liberté et à la solidarité, même si cela passe, c'est vrai, par des beaux couchers de soleil et des feux de bois sympathiques.
Oui, il faut quand même rappeler que Chloé Zhao, cette jeune réalisatrice sino-américaine, elle nous avait donné auparavant les chansons que mes frères m'ont apprises, d'une part, et The Rider de l'autre. C'est peut-être ce qui rend un peu décevant ce film-là, parce que moi j'ai trouvé qu'il ne s'inscrivait plus dans cette première filiation. Alors après tout, on peut dire, mais tant mieux, elle évolue, elle fait autre chose, c'est vrai, bon, elle fait autre chose. Mais alors cette autre chose-là, disons, peut-être est moins stimulant, moins intéressant, parce que quand même cette esthétique de pub à laquelle vous faisiez un peu allusion, et qui est quand même assez présente dans le film. Il y a notamment des intermèdes routiers avec une petite musique de piano bar qui est vraiment limite, on se croirait dans la pub, je sais pas, d'une compagnie d'assurance,
ouais,
par exemple.
Bah, bon. N'est pas maquillée.
L'actrice est formidable, c'est vrai. Ce qui me gêne encore plus, là où pour moi le malaise est grandissant tout au long du film, c'est qu'il y a une sorte d'éloge au fond de la fatalité. Voilà, on parlait de la façon avec Bruno Podalides de se dresser un peu compte, de voir un petit peu ce qui ne va pas et comment faire pour que ça aille mieux. Là, je trouve que le film s'enlise dans cette espèce de facilité de la fatalité.
Eh ben, c'est pas une facile. Moi, j'aimerais pas être à leur place et je trouve plutôt de trouver de l'espoir là-dedans et de continuer malgré tout ce qu'on lui propose, de continuer ce cercle dans l'Amérique est assez
Je suppose
que le prochain film va vous plaire beaucoup parce que c'est la vraie version de l'Amérique profonde. The Last Hillbilly de Thomas Jenko et Diane Sarabouzgarou. C'est vrai qu'on aime beaucoup ce film. Ouais. Sur un peu des bouseux péquenauds des collines.
Oui, souvenez-vous, on avait rencontré ces deux auteurs à Deauville au moment où le film, comme celui de Bruno Podalides d'ailleurs, devait sortir quelques semaines plus tard, manque de peau. La pandémie a fait en sorte que ça n'a pas été le cas. Non, c'est un film très intéressant. C'est un premier long métrage qu'ils ont réalisé sur 7 ans, sur une longue période d'imprégnation, effectivement, auprès de ces bouseux, de ces cutéreux, de ceux qui ont fait Trump, comme ils le disent eux-mêmes. Hein, ils se vivent vivent comme ça, et avec aussi les limites qu'eux-mêmes trouvent d'ailleurs à cette Amérique-là. Mais il y a un côté très mythique, très mythologique. C'est une Amérique peut-être de, effectivement, du camp des vaincus, du Sud contre le Nord. Et il y a tout au long du film une sorte de très très belle mélopée poétique dite par l'un d'entre eux. Ça fait que on est bien loin d'un pur documentaire un peu sombre pour trouver une grâce et une véritable poésie. The Last Hillbilly.
200 mètres de Amin Nefer. En fait, c'est une famille palestinienne séparée par le mur jusqu'à l'accident du petit garçon.
Oui, alors on a presque l'impression d'avoir déjà vu, je dirais, hélas, ce film, parce que sur cette réalité du mur entre les Israéliens et les Palestiniens, et ce mur qui fait là 200 mètres, et qui fait que le héros est à 200 mètres de sa famille, de sa femme et de ses petites filles, mais au fond, on sent bien que ça peut être 200 kilomètres, et le film montre ça concrètement sur la difficulté de cette situation. Seulement n'est pas Elie Souleymane qui veut, peut-être, c'est-à-dire que c'est ce grand cinéaste palestinien qui nous donne à voir des choses tellement acides, tellement ironiques. Là, on sent tellement une volonté de ne pas trop déborder, de ne pas d'évacuer presque toute tension, alors que le sujet est dans la tension, même devrait être dans la tension. Ça rend le film singulièrement plat, singulièrement trop gentil par rapport à la situation incroyable qu'il décrit. Ça s'appelle 200 mètres.
Juliana de Fernando Espinosa, Lima dans les années 80, maltraitée par son beau-père. La jeune Juliana prend la fuite et doit se faire passer pour un garçon pour intégrer un groupe d'adolescents.
Oui, alors c'est un film très curieux parce que c'est un film qui date de la fin des années 80 sur mais qui est inédit en France, hein, qui n'a jamais été montré, alors que c'était un des grands succès du cinéma péruvien, parce que justement il avait une force incroyable. On pourrait presque dire que c'est Oliver Twist au pays de Buñuel, avec un Pérou et ses enfants des rues, une héroïne, Juliana, celle qui donne son titre au film. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a une vraie sensibilité, une vraie attention aux enfants, et avec une capacité à décrire ce qui est insupportable comme réalité sociale, et en même temps des moments de bonheur et en même temps des rires. Voilà, cette façon très très belle de capter l'essentiel, qui est malgré tout la vie qui va de l'avant, et avec néanmoins un contexte social absolument déprimant. Ça s'appelle Juliana.
On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vite aller sur l'oubli que nous saurons du cinéaste espagnol Fernando Trueba. C'est le portrait d'un héros dans la Colombie des années 80. C'est un portrait un peu beaucoup hagiographique, oui, et pas assez politique, mais à l'intérieur de ce film, il y a un acteur extraordinaire qui s'appelle Javier Camara. C'était lui l'infirmier de Parle avec elle, de Almodovar, et pour
exactement.
Ça, non. On peut quand même rester sur l'oubli que nous serons. Jolie histoire bien déroulée. Le père de Nafi, vite, Laurent,
oui,
de Mamadou Dia.
Premier long métrage sénégalais, très très intéressant, parce qu'au fond, il montre deux visages de l'intégrisme radical islamique, l'un qui compose et l'autre qui ne compose absolument pas, venant de ce pays, venant de ce territoire-là, et de quelqu'un qui a été journaliste avant pendant 10 ans, c'est tout à fait passionnant.
Trois reprises, Tom Foote de Bo Widerberg. À propos de l'euro qui repart, là.
Oui, bah c'est quelque part charmant. Voilà, foot et petit garçon, ça va très bien ensemble, et c'est une sorte de génie incroyable sur les terrains de foot. Donc c'est une belle reprise, effectivement.
Un grand Zurlini, La fille à la valise.
Ah, quel beau mélo. Claudia Carnival, premier rôle. Jacques Perrin en jeune premier,
ouais.
Absolument, 1961. Le noir et blanc est sublime. Le mélo est assumé. C'est tout ce qu'on aime de cette insondable mélancolie du cinéma italien des années 60.
Et un grand japonais, Mikio Naruto. La mer.
1952, ça a été le début de la vague nippone en France. On a découvert ce cinéma-là, avec au centre, évidemment, la famille et cette espèce de mère courage, une incroyable subtilité. Là aussi, un mélo émouvant, très très sensible, et un beau regard sur le Japon de ces années-là.
Et à partir de lundi jusqu'au 19 juin, le Festival d'Annecy, l'animation 11 longs-métrages qui concourt pour le Cristal.
Mais oui,
et
on
enfin,
ira à Annecy.
Des cadeaux pour nos invités.
Des cadeaux pour Vincent Macaigne, un film de François Truffaut, La Peau Douce. Il était tout seul, perdu. La Peau Douce de François Truffaut, chez Carlotta, magnifique édition, merveilleusement restaurée. Un très très beau noir et blanc avec des bonus dont un cinéaste de notre temps, vous savez, la série documentaire formidable télévisée. C'est un Truffaut, je ne sais pas si vous le connaissez, Vincent McCain, mais que je vous conseille de découvrir ou de redécouvrir. C'est peut-être un de ses films les plus personnels, tellement personnel, figurez-vous, qu'il se déroule dans le propre appartement de François Truffaut à deux pas d'ici. Et puis, pour Bruno Podalydès, eh ben, je crois un cinéaste qui pourrait lui plaire, Buster Keaton. Il me semble que son univers n'est pas très éloigné. La croisière du navigateur, plus Sherlock Junior, c'est chez Lobster qui nous fait ce très très beau cadeau d'une superbe version restaurée, avec en plus des musiques d'orchestre inédites qui accompagnent ce Blu-ray DVD chez Lobster.